Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique. Pour financer les besoins ponctuels de trésorerie ou l'acquisition de biens d'équipement, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos réactions sur la politique migratoire britannique et ce revers pour Boris Johnson, puisque l'avion qui était censé transporter des migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda est resté sur le tarmac de l'aéroport de Londres. Hier soir, ça s'est joué vraiment à quelques minutes du décollage. La Cour européenne des droits de l'homme a contraint les autorités britanniques à annuler ce vol charter. En tout cas, le gouvernement de Boris Johnson n'en démord pas. Il redit sa détermination à rediriger vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire, qu'ils soient irakiens, iraniens ou encore albanais. L'objectif, dit le Premier ministre britannique, est de dissuader toutes celles et ceux qui seraient tentés d'arriver clandestinement au Royaume-Uni. On en parle évidemment ce matin. Dites-nous ce que vous inspire ce projet, qualifié d'ailleurs de cruel et d'inhumain par les Nations Unies. 33 9 693 693 70, et vos commentaires évidemment comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Njili. Il est à Kinshasa en RDC. Bonjour Njili.
Oui, bonjour.
Soyez
bonjour
le bienvenu. Et merci de nous appeler de la capitale congolaise. Vous avez des questions après la disparition d'un célèbre influenceur en Chine?
Oui, Ron. Cela fait plusieurs jours qu'un influenceur chinois aux millions d'abonnés n'a plus donné des signes de vie après avoir fait référence à Tiananmen lors d'un live. Alors, j'aimerais savoir, au regard de l'inquiétude de ses fans, peut-on craindre pour la suite de sa carrière?
Ah oui, son nom, Li Chaki, il est très connu en Chine. C'est certainement l'influenceur numéro un du pays. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan, bonjour Angie.
Cela fait maintenant 10 jours, un peu plus de 10 jours, que Li Chaki a complètement disparu des radars.
Oui, c'est ça. Alors pour la question d'Angie Lee, c'est encore difficile de dire. En tout cas, c'est sûr que quand il reviendra, s'il revient, il a disparu médiatiquement. Angie Lee, il n'a pas disparu complètement, il a disparu médiatiquement. Li Chaki, c'était le 3 juin dernier, je rappelle brièvement, Juan, comment ça s'est passé. Le plus célèbre des streamers chinois, celui qui est capable de vendre 15 000 bâtons de rouge à lèvres ici en moins de 5 minutes, donc il est très fort dans ce domaine, est en train de vendre des biscuits d'une marque américaine le 3 juin dernier au soir. Alors, je ne vais pas citer la marque ici, mais quand soudain apparaît à l'écran un char en gâteau, en chocolat, donc il est 21h, un char en gâteau apparaît à l'écran, et là tout de suite, c'est l'écran noir, même en chocolat, les blindés sont tabous. En Chine, à la veille de l'anniversaire de la répression de Tiananmen, vous en avez parlé, la retransmission est coupée. Et Li Chaki indique sur sa messagerie WeChat que la diffusion a des problèmes techniques. Puis 2 heures plus tard, il revient sur son compte WeChat encore pour dire que la diffusion ne pourra pas reprendre. On n'a plus de nouvelles depuis, ses fans sont inquiets effectivement. J'ai encore regardé les messages ce matin sur le réseau Weibo. Il y a beaucoup de jeunes parmi les plus de 100 millions de followers de Li Chaki. Et sur le coup, la plupart n'ont pas compris ce qui s'était passé à Angie Lee. Ils n'ont pas compris le coup du char. Depuis 30 ans, la répression du printemps de Pékin est totalement censurée. Ces jeunes sont nés après, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Mais maintenant, ils ont compris. Pourquoi ? Parce qu'ils ont demandé tout simplement à leurs parents ou à des amis qui savaient. Ils comprennent donc pourquoi leur idole a été censurée pour un geste qu'on ne sait même pas. On ne sait pas s'il est volontaire, en fait. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et surtout, si Li Chaki en avait conscience. Je vous lis un message quand même, Juan, que j'ai vu ce matin. « Je suis tellement énervé, dit un fan. Tout ce que vous savez faire, c'est supprimer, supprimer, supprimer encore. » Pourquoi ne coupez-vous tout simplement pas les réseaux si ça continue? Beaucoup d'anxiété comme cela, même si certains veulent être optimistes. Et pour répondre à Angie Lee, certains ont vu que la photo du jeune homme est toujours, de ce jeune influenceur, est toujours sur le site de sa compagnie qui gère sa carrière. Donc, si vraiment il avait disparu totalement, la photo aurait disparu aussi.
Oui, en tout cas, ce qui est important de préciser, Stéphane Lagarde, c'est qu'à aucun moment cet influenceur n'a parlé de vive voix du massacre de Tiananmen. Il y a eu effectivement ce gâteau en forme de char. Il se trouve que il faisait cette présentation la veille de la date anniversaire du massacre de la place de Tiananmen, mais à aucun moment lui-même a pris la parole pour s'exprimer sur ces événements qui datent d'il y a 33 ans. Stéphane, restez quelques instants avec nous. Angélie a une autre question à vous poser.
Oui, mais comment expliquer la volonté du pouvoir chinois de faire taire chaque référence au massacre de Tiananmen ?
Le sujet, disons-le, Stéphane Lagarde, il est clairement tabou en Chine.
Oui, c'est ça, mais j'ai envie de, quand même de dire qu'il n'y a pas que Tiananmen dans l'histoire. Il y a sûrement, derrière cette disparition, le souhait du pouvoir chinois de montrer aux célébrités. On l'a vu pour des stars de cinéma, par exemple, pour les grands patrons, si on pense à Jack Ma, hein, d'Alibaba, de montrer qui est le patron, justement. Et le patron en Chine, cela reste le Parti communiste chinois. Donc tous ceux qui vont au-delà des lignes rouges, hein, qui a fixé le Parti communiste chinois, eh bien, disparaissent médiatiquement, encore une fois. Pour les influenceurs, il y a trois des principaux influenceurs chinois, Via, Shirley et donc Li Jiaxi, qui aujourd'hui, donc, pour l'instant, provisoirement sûrement, disparu des écrans. Mais sinon, cette question, effectivement, on se la pose nous aussi tous les ans, Njili. Tous les 4 juin, en tant que journaliste ici, on essaie de retrouver les témoins de l'époque. Ils sont de moins en moins nombreux. C'était il y a 33 ans, on le rappelle. Les mères des victimes de Tiananmen se comptent sur les doigts d'une main. Et on se demande, c'est vrai, pourquoi verrouiller ainsi la mémoire collective 3 décennies après la tragédie? Qu'est-ce qui fait peur à ce point au pouvoir chinois? Après tout, le fait de censurer le souvenir amène les médias étrangers à en parler chaque année. Hein. Si ce n'était pas censuré, peut-être qu'on n'en parlerait plus. Je me pose cette question, moi, chaque année, et c'est un point de vue personnel que je vous donne maintenant, Juan, mais après toutes ces années, je repense aux mots de Deng Xiaoping, vous savez, juste après que l'armée populaire de libération ait tiré sur ses étudiants. Certes, l'armée a fait des victimes, les chars ont écrasé quelques manifestants, disait le président chinois à l'époque, mais sans cela, la situation aurait perduré, la confusion aurait persisté. Donc, fin de citation, et je crois vraiment qu'en fait, il a raison, Deng Xiaoping, la jeunesse chinoise, mais aussi les ouvriers auraient continué sûrement de dire leur désaccord avec le pouvoir. Et ça, pour le pouvoir chinois, ce n'est pas possible, la contestation.
Njili, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, oui, merci. Nous espérons juste des jours meilleurs pour Liu Jianqi.
En tout cas, merci de nous avoir appelés et d'écouter RFI. Bonne journée à Kinshasa. Stéphane Lagarde, bonne fin d'après-midi à Pékin, où vous êtes le correspondant permanent de RFI. Merci à vous. 10h17 à Paris. On repasse au standard. Mathurin, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Juan. Bonjour à tous les
RFI. À Pointe-Noire, au Congo, vous avez des questions sur les réfugiés de la guerre en Ukraine.
Exactement. Une information RFI, hein, qui présente d'ailleurs, indique que la France s'apprête à expulser les étrangers ayant fui la guerre en Ukraine. À ce sujet, donc, j'ai 2 questions. La première, comment la France justifie-t-elle cette décision?
Alors, il s'agit effectivement de personnes venues d'Ukraine, mais qui ne sont pas de nationalité ukrainienne, et ça suscite un tollé. Plusieurs organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International ou la CIMAD, dénoncent une décision injuste. Bonjour Leslie Carretero.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Info Migrants, site d'information destiné aux migrants dont France Média Monde est évidemment partenaire. Leslie, d'abord, il faut peut-être expliquer aux auditeurs qu'il existe en fait 3 profils différents d'étrangers venus d'Ukraine.
Oui, alors il y a tout d'abord ceux qui travaillaient en Ukraine. Il y a aussi les personnes qui avaient obtenu l'asile, ceux qu'on appelle les réfugiés, et les étudiants étrangers. Donc pour les premiers, ceux qui travaillaient en Ukraine, ils étaient pour la plupart titulaires d'un titre de séjour qu'on appelle résidence permanente et qui leur donne les mêmes droits que les Ukrainiens. Ils sont donc protégés. Idem pour les réfugiés, ils sont pris en charge au même titre que les Ukrainiens. Ils ont une autorisation provisoire de séjour de 6 mois renouvelable qui leur permet notamment de travailler. Ils sont donc eux aussi protégés.
En fait, c'est pour les étudiants étrangers que c'est plus compliqué.
Oui, tout à fait, car ces personnes ont très peu de droits, contrairement aux autres catégories dont je parlais plus précédemment. Alors, pour la plupart, la France a délivré à ses étudiants étrangers à leur arrivée en France une autorisation provisoire d'1 mois seulement, contre 6 pour les Ukrainiens, comme je le disais. Ils n'ont en fait pas le droit à une protection supplémentaire, car pour les autorités françaises, ils peuvent rentrer dans leur pays d'origine. Contrairement aux Ukrainiens, ils ne fuient pas un pays en guerre, selon la France. Alors pour rester sur le territoire français, ils doivent donc passer par ce qu'on appelle le droit commun. Ils doivent déposer l'asile ou demander un titre de séjour comme n'importe quel étranger arrivé en France. Et le résultat, c'est que beaucoup n'obtiennent rien et les premières OQTF, les obligations de quitter le territoire français, commencent à être délivrées. Et s'ils restent en France, ils risquent de devenir des sans-papiers avec toutes les difficultés que cela représente.
Oui, en tout cas, les ONG dont je parlais tout à l'heure dénoncent un traitement différent. Pourtant, ces personnes, certes, qui ne sont pas de nationalité ukrainienne, vivent, je cite, « les mêmes traumatismes de l'exil ». Mathurin, vous avez une dernière question?
Oui, la dernière, c'est, en fait, je disais, bon, ces personnes qui sont concernées, ont-elles la possibilité de recourir à la justice pour défendre leurs droits?
Leslie Carretero.
Oui, Mathurin, comme chaque personne qui reçoit une OQTF, des recours au tribunal administratif peuvent être intentés. La personne a 1 mois pour saisir la justice après avoir reçu son obligation de quitter le territoire. Les recours peuvent mettre plusieurs mois et en attendant, la personne est autorisée à rester en France. Mais selon les spécialistes, ces recours qui concernent les étudiants étrangers ont peu de chances d'aboutir. Alors, pour ne pas être envoyés dans leur pays, les étudiants venus d'Ukraine cherchent des solutions. Certains veulent rallier d'autres États de l'Union européenne, comme l'Espagne ou le Portugal, par exemple. Ces deux pays ont choisi de traiter de la même manière toutes les personnes ayant fui l'Ukraine, qu'ils soient donc ukrainiens ou les étudiants étrangers venus d'Ukraine. Et enfin, d'autres pensent à retourner en Ukraine dans des territoires où le conflit est moins intense.
Mathurin, a-t-on répondu à vos deux questions ?
Ah ouais, merci beaucoup, merci, parce que moi je sors de ces pays-là aussi.
C'est-à-dire, vous êtes un des réfugiés d'Ukraine ?
Non, moi j'ai fini il y a 30 ans, enfin, je veux dire que j'étais là, j'ai passé mes études dans ces pays-là aussi.
Ah, vous avez vécu en Ukraine. Et donc vous vous sentez évidemment concerné par le sort de ces étudiants étrangers qui ont dû quitter l'Ukraine avec le déclenchement de la guerre. Merci infiniment de nous avoir appelé, Mathurin, bonne journée à Pointe-Noire. On va parler politique française après le premier tour des élections législatives en France. Hagan, bonjour.
Bonjour, Johan. Bonjour à tous.
À N'Djamena, au Tchad.
Oui, N'Djamena, au Tchad, bien sûr.
On vous écoute.
La NUP et la majorité présidentielle sont au coude à coude à l'issue du premier tour des législatives. À ce sujet, j'ai des questions. Le parti présidentiel a-t-il une chance d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale ?
Ah. C'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. D'ailleurs, hier, le président Macron a appelé les Français à lui donner une majorité solide à l'issue du second tour de dimanche prochain. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Juan, bonjour Hagan.
Chef du service politique de RFI, majorité absolue ou majorité relative pour Emmanuel Macron ?
C'est ça tout l'enjeu du second tour, savoir si Emmanuel Macron disposera de cette fameuse majorité absolue et pourra faire passer ses réformes. Et c'est la première fois qu'il y a autant de suspense sur cette question jusqu'ici, depuis en tout cas que le quinquennat a fait concorder le mandat du président avec celui des députés. Eh bien, les Français avaient toujours donné la majorité au président qu'ils venaient d'élire. Ils avaient respecté une certaine forme de logique institutionnelle. Les cohabitations, on le rappelle, ne dataient que de l'époque du septennat où les législatives avaient lieu en cours de mandat ou quand il y avait eu une dissolution avec Jacques Chirac. Mais là, tout était un peu inédit. Emmanuel Macron a réussi à se faire réélire pour un second mandat et c'est le premier président qui y parvient. Nicolas Sarkozy avait été battu par François Hollande qui lui-même ne s'était pas représenté en 2017. On est donc dans une nouvelle configuration où il faut compter avec une forme d'usure du président qui ne suscite plus l'enthousiasme de ses débuts et qui en plus a été réélu encore une fois face à Marine Le Pen, ce qui a donné au duel un goût de déjà-vu et aux Français qui ne se reconnaissaient pas dans la politique d'Emmanuel Macron l'impression d'être contraints de voter pour le président sortant pour empêcher l'élection de la candidate du Rassemblement National. Et tout ça, c'était pas terrible pour revoter pour lui dans le cadre de cette élection législative.
Et puis on a eu Valérie Gasse, Jean-Luc Mélenchon qui a ouvert la porte pour les mécontents en présentant les législatives comme le troisième tour de la présidentielle.
Exactement, il a lancé son opération « Élisez-moi, Premier ministre législative » et il a en plus réussi à unir les partis de gauche sous la même bannière, la NUPES, la NUP, on dit un peu comme on veut. Et on est arrivé à cette situation. Ensemble, la coalition pro-Macron n'a pas de garantie d'avoir cette fameuse majorité à l'Assemblée, c'est-à-dire 289 sièges. Les projections des instituts de sondage évaluent que la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 255 et 295 députés dimanche prochain. Tout n'est donc pas perdu, mais ce n'est pas gagné non plus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'Emmanuel Macron va perdre les législatives et que la NUPES ou la NUP, qui est arrivée au coude à coude avec Ensemble au premier tour, peut s'emparer de l'Assemblée. Les meilleures projections pour la gauche, c'est à peu près 200 sièges. Mais il y a un vrai suspense, comme je le disais. Et puis, vous en avez parlé, Juan, la dramatisation à laquelle s'est livré le président de la République, Emmanuel Macron, hier, sur le tarmac de l'aéroport d'Orly avant de s'envoler pour un voyage en Roumanie.
Devant l'avion,
un peu à l'américaine, en demandant que dimanche, aucune voix ne manque à la République. Eh bien, ça laisse penser que la sérénité n'est pas totale du côté de l'Élysée.
Hagan, vous disiez avoir deux questions.
Oui, s'il ne l'a pas, est-ce qu'il devra faire une alliance avec les Républicains ?
Alors, s'il n'a pas la majorité, est-ce que Emmanuel Macron va devoir composer avec les Républicains ?
Eh bien oui, Hagan, il sera obligé de négocier vraisemblablement avec les Républicains pour faire passer ses textes, car avec la gauche, ça paraît très difficile, on l'a vu, c'est l'adversaire prioritaire. Et l'autre force qui va être bien représentée à l'Assemblée nationale cette fois-ci, ce sera le Rassemblement national de Marine Le Pen, avec lequel des alliances même ponctuelles sont assez peu envisageables. Alors, les Républicains, ils ont déjà saisi la balle au bond, le président président Christian Jacob du parti a dit que les députés LR seraient constructifs, qu'ils voteraient les projets qui sont bons pour la France. Et en fait, c'est un bon moyen pour eux de revenir dans le jeu après une présidentielle totalement catastrophique. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si Ensemble obtient la majorité absolue, eh bien ce sera pour Emmanuel Macron avec ses alliés, avec le Modem et avec Horizon de François, d'Edouard Philippe, qui auront les moyens, eux, en interne, de peser aussi sur les décisions. Alors même si tout le monde, pour l'instant, affiche sa loyauté envers le président, la main sur le cœur, Emmanuel Macron n'aura pas, lui, les mains totalement libres dans un quinquennat à l'issue duquel, il faut le rappeler, il ne se représentera pas. Les ambitions de ses successeurs potentiels, et tout de suite on regarde vers Edouard Philippe, pourront compliquer la donne pour le gouvernement d'Emmanuel Macron dans les 5 prochaines années.
Verdict en tout cas déjà dimanche soir, hein, soirée spéciale sur RFI, évidemment on vous donnera tous les résultats du second tour des élections législatives. Hagan, bonne journée à N'Djamena, un grand merci à Valérie Gasse, chef du service politique d'RFI. On va terminer cette première partie avec des questions sur le Brésil. Elcio Ramalho, chef de la rédaction brésilienne d'RFI, nous a rejoint à l'instant même. Bonjour Elcio.
Bonjour Juan.
Je vous présente Amadou, il est à Ouagadougou. Bonjour Amadou.
Bonjour. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les têtes de RFI.
Nous vous écoutons.
Cela fait plus d'une semaine que le journaliste britannique, dentiste et anthropologue brésilien Bruno Ferreira n'a plus fait signe de vie alors qu'il s'est trouvé à l'Amazonie.
Oui.
Alors Juan, j'ai deux questions. Que faisait-il dans cette zone? Est-ce que cette zone où s'est trouvé est une zone dangereuse?
Ouh, le réseau téléphone n'est pas très bon. Que faisait-il dans cette zone et est-ce que cette région était dangereuse? Elcio Ramalho, l'affaire défraie la chronique au Brésil. Hein, tout le monde en parle. Ça fait maintenant effectivement, ça fait 10 jours maintenant qu'on n'a plus de nouvelles de ce journaliste britannique et de cet expert brésilien de renommée internationale concernant les peuples indigènes. Que sait-on? Que faisait-il déjà dans cette région d'Amazonie?
Bon, déjà, Don Philippe est un journaliste pour The Guardian, donc il préparait aussi des reportages et un livre pour sauver l'Amazonie, donc avec des propositions pour cette région du monde. Donc ils étaient dans cette région pour faire des reportages et d'investigation. Il était accompagné de Bruno Pereira, qui, comme tu as dit, en fait c'est un spécialiste, un grand défenseur des peuples indigènes. Il faut rappeler aussi que Bruno est un fonctionnaire de l'agence gouvernementale chargée de la protection des indigènes, donc la FUNAI. Il a été écarté de ses fonctions justement pour avoir dirigé une grande opération pour identifier les menaces et les invasions des terres pour les territoires indigènes. Donc, il était dans cette vallée de Javari où des hommes sont portés disparus.
Alors, Javari, c'est une zone immense. Difficile d'accès, c'est une zone plus grande qu'un pays comme l'Autriche. Hein.
Complètement. Mmh. À l'ouest de l'état d'Amazonas, à la frontière entre le Brésil et le Pérou. Donc, là où habitent plusieurs communautés indigènes complètement coupées du monde, des tribus isolées. Et c'est une région, bien évidemment, convoitée par des orpailleurs, boucherons clandestins, chasseurs, des pêcheurs illégaux. Donc,
région potentiellement dangereuse.
Absolument. Absolument. Et surtout, est devenue depuis plusieurs années une plaque tournante du trafic de drogue entre le Pérou et le Brésil. Donc, Bruno travaillait justement pour la protection de ses peuples dans cette région. Et là, il avait reçu plusieurs menaces de mort.
Ouais. Une autre question, Amadou.
Alors, pourquoi la recherche des hommes prend-elle autant de temps?
C'est vrai qu'elles prennent du temps. Et d'ailleurs, les familles des deux disparus sont assez mécontentes hein, de la façon dont les autorités brésiliennes gèrent le dossier.
Oui, justement. Après 48 heures, après l'annonce de leur disparition par des peuples indigènes de cette région de Val de Javari. Donc, la justice a ordonné le gouvernement brésilien, le gouvernement fédéral, d'employer tous les moyens, justement, pour rechercher ces personnes disparues, ces deux hommes. Donc, le gouvernement a envoyé à cette région la police fédérale, les forces armées, les militaires, pour mener des recherches. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les policiers ont retrouvé des viscères humaines flottant sur le fleuve. Ils ont trouvé également des sangs dans un bateau. Où a été identifié un suspect déjà interpellé. Ils ont trouvé aussi un sac à dos des journalistes, un ordinateur et aussi des affaires personnelles de Bruno. Donc, pour l'instant, il y a 2 personnes qui sont en prison et les recherches continuent, mais il y a peu de chances qu'ils soient retrouvés vivants.
Merci infiniment, Elcio Ramalho, d'être venu nous décrypter la disparition de ces deux personnalités. 8h30 en temps universel, restez avec nous.